En attendant Bojangles, de Olivier Bourdeau. Adaptation, Louise Loubrieux.
Ceci est mon histoire vraie, avec des mensonges à l'endroit, à l'envers, parce que la vie c'est souvent comme ça. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier c'était de chasser les mouches avec un harpon.
Maintenant, j'ouvre des garages. Faut beaucoup travailler, mais c'est très bien payé.
En réalité, mon père était un homme de loi. Il n'était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat, il n'était rien de tout ça. Son activité, c'était grâce à son ami sénateur qu'il pouvait l'exercer. Nouvelle norme, nouveau métier. Pour assurer un parc automobile sécurisé et sain, le sénateur avait décidé d'imposer un contrôle technique à tout le monde. Ainsi, les propriétaires de tacos, de limousines, d'utilitaires et de guimbardes en tout genre devaient faire passer une visite médicale à leur véhicule pour éviter les accidents. Riche ou pauvre, tout le monde devait s'y plier. Alors forcément, comme c'était obligatoire, mon père facturait cher. Très cher.
Mais je sauve des vies. Je sauve des vies.
À cette époque, sauver des vies rapportait beaucoup d'argent. Après avoir ouvert énormément de garages, il les a vendus à un concurrent, ce qui a été un soulagement pour maman, qui n'aimait pas trop qu'il sauve des vies. Le dimanche après-midi, pour chasser tous les excès de la semaine, mon père faisait de la musculation. Il appelait ça le gym tonic, car parfois il s'arrêtait pour boire son gin tonic pendant que ma mère essayait, la langue coincée entre les dents et un œil fermé, de piquer l'olive de son martini avec un parasol miniature.
Vous devriez essayer le sport, Marguerite. Je vous assure que c'est drôle, puis là on se sent tellement mieux après.
Vous devriez essayer le jus d'orange, Georges, et je vous assure que vous trouveriez le sport beaucoup moins marrant après. Et soyez gentil. Cessez de m'appeler Marguerite.
Je n'ai jamais bien compris pourquoi, mais mon père n'appelait jamais ma mère plus de deux jours de suite par le même prénom.
Oh non ! Oh, vous pouvez pas me faire ça, pas René ! Pas aujourd'hui ! Mais ce soir, nous avons déjà un dîner !
Alors ma mère tournait la tête vers la glace et saluait la nouvelle Renée en grimaçant, la nouvelle Joséphine en prenant un air digne, la nouvelle Marie-Lou en gonflant les joues.
Mais en plus, j'ai vraiment rien de René dans ma garde-robe.
Après l'histoire des garages, mon père n'avait plus besoin de se lever pour nous faire manger, alors il s'est mis à écrire des livres. Tout le temps, beaucoup. Il restait assis à son grand bureau, devant son papier. Il écrivait, riait en écrivant, écrivait ce qui le faisait rire, remplissait sa pipe, le cendrier, la pièce de fumée et d'encre son papier. Mais la réponse des éditeurs était toujours la même. C'est bien écrit, drôle, mais ça n'a ni queue ni tête.
A-t-on déjà vu un livre avec une queue et une tête ? Ben, ça se saurait.
D'elle, mon père disait qu'elle tutoyait les étoiles. Ce qui me semblait étrange car elle vous voyait tout le monde, y compris moi et la demoiselle de Numidie. Cet oiseau élégant et étonnant qui vivait dans notre appartement. Mes parents l'avaient ramené d'un voyage je ne sais où, de leur vie d'avant. Nous l'appelions mademoiselle superfétatoire, car elle ne servait à rien, sauf à crier très fort. Sans raison.
C'est dangereux de promener un oiseau en laisse sur le trottoir. Et puis vraiment, c'est inhumain.
Des poils, des plumes, quelle différence. Mademoiselle n'a jamais mordu qui que ce soit et je la trouve bien plus élégante que votre pâté de poils.
Oh !
Venez, mademoiselle. Rentrons chez nous, ces individus sont vraiment trop communs et grossiers.
Ma mère s'énervait souvent, mais jamais longtemps. La voix de mon père était pour elle un bon calmant. Le reste du temps, elle s'extasiait sur tout. Trouvait follement divertissant l'avancement du monde et l'accompagnait en sautillant gaiement. Elle ne me traitait ni en adulte, ni en enfant, mais plutôt comme un personnage de roman. Un roman qu'elle aimait beaucoup et tendrement, et dans lequel elle se plongeait à tout instant.
Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Vous mentez si bien. Ce serait dommage de nous en priver.
Alors je lui racontais ma journée imaginaire.
Mais quelle journée, mon enfant adoré, mais quelle journée! Eh ben, je suis bien contente pour vous. Vous avez dû bien vous amuser.
Mentir à l'endroit, à l'envers. Parfois, je ne savais vraiment plus comment faire.
Certains traits de son visage portaient les nuances de son comportement enfantin. Mais ses lèvres charnues, rouge carmin, retenant miraculeusement suspendues de fines cigarettes blanches, et ses longs cils jaugeant la vie, démontraient à l'observateur qu'elle avait grandi.
Ainsi écrivait mon père dans son carnet secret que j'ai lu plus tard. Après. Mes parents dansaient tout le temps, partout. Avec leurs amis, la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi. Sur un vieux tourne-disque, mes parents passaient toujours le même vinyle de Nina Simone et la même chanson, Mr. Bojangles. Pour recevoir le plus de gens possible, notre appartement était très grand. Sur le sol de l'entrée, les grandes dalles noires et blanches formaient un jeu de dames géant. Dans un coin du hall, il y avait une montagne de courriers que mes parents avaient constitués en jetant, sans les ouvrir, toutes les lettres qu'ils recevaient.
Si tu n'es pas sage, je te fais ouvrir le courrier pour le trier.
Le salon était vraiment dingue. Il y avait deux fauteuils crapaud rouge sang, pour que mes parents puissent boire confortablement, une table en verre avec du sable de toutes les couleurs à l'intérieur, un immense canapé bleu capitonné sur lequel il était recommandé de sauter, c'est ma mère qui me l'avait conseillé. En face du canapé, sur une vieille malle de voyage pleine d'autocollants de capitale, se trouvait un petit téléviseur moisi qui ne fonctionnait plus très bien.
Si t'es pas sage, j'allume la télévision, moi.
Maman invitait une foule de gens pour manger, à n'importe quel moment de la journée. Il est arrivé qu'on danse trop pour manger. Alors, tard dans la nuit, maman se mettait à pleurer pour me montrer combien elle était désolée. Et elle me picorait en me serrant fort dans ses bras, avec son visage tout mouillé et son odeur de cocktail. Elle était comme ça, ma mère. Et c'était bien ainsi. Trois nuits par semaine, notre ami, le sénateur, quittait son territoire du centre de la France pour siéger dans son palais. Mon père l'appelait tendrement l'ordure.
Mon ami plus cher, car son amitié n'a pas de prix.
Avec l'argent des garages, papa avait acheté un beau et petit château en Espagne, dans les montagnes, loin dans le sud. Le château était légèrement au-dessus d'un village tout blanc et ne donnait à voir que des forêts de pins, ou presque. Dans un coin à droite, il y avait des terrasses avec tout plein d'oliviers, d'orangers et d'amandiers qui tombaient pile poil sur un lac bleu laiteux retenu par un barrage majestueux. Maman me racontait souvent l'histoire de Mr. Bojangles. Son histoire était comme sa musique, belle, dansante et mélancolique. Il vivait à la Nouvelle-Orléans, même si c'était il y a longtemps, dans le vieux temps, il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Au début, il voyageait avec son chien et ses vieux vêtements, dans le sud d'un autre continent. Puis son chien était mort, et plus rien n'avait été comme avant. Alors il allait danser dans les bars, toujours avec ses vieux vêtements. Il dansait, Monsieur Bojangles. Il dansait vraiment tout le temps, comme mes parents. Pour qu'il danse, les gens lui payaient des bières, alors il dansait dans son pantalon trop grand. Il sautait très haut et retombait tout doucement. Maman me disait qu'il dansait pour faire revenir son chien. Elle le savait de source sûre. Et elle dansait pour faire revenir Monsieur Bojangles. C'est pour ça qu'elle dansait tout le temps. Pour qu'il revienne, tout simplement.
La raison aurait dû m'inciter à fuir. À la fuir. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû la rencontrer.
Quand j'ai lu le livre de mon père, j'ai eu l'impression de tout revivre une seconde fois.
Pour fêter l'ouverture de mon 10e garage, mon banquier m'avait invité dans un palace de la Côte d'Azur pour un pince-fesse de 2 jours, étrangement nommé les week-ends de la réussite. Pff, une sorte de séminaire pour jeunes entrepreneurs pleins d'avenir. Alors, comme souvent depuis mon enfance, j'ai tué le temps en m'inventant des vies auprès de mes condisciples et de leurs épouses. Ainsi, la veille, au dîner, j'ai embrayé dès l'entrée sur ma filiation avec un prince hongrois qui avait fréquenté le comte de Dracula.
Et vous venez de
là ? Le lendemain midi, grisé par mon succès de la veille, j'avais récidivé avec de nouveaux cobayes.
En fait, mon père était un riche industriel américain. Il détenait des usines de construction automobile à Détroit.
J'avais corsé l'affaire en m'affublant d'un autisme profond qui m'avait fait rester muet jusqu'à l'âge de 7 ans. Gagner les cœurs par un exercice de mythomanie qui touche la sensibilité de ses victimes est vraiment ce qu'il y a de plus aisé.
Il a fallu se battre.
Mais quel fut votre premier mot ?
Pneu.
Pneu ?
Oui, pneu. C'est incroyable, non ?
Mais c'est pourquoi vous avez monté des garages. Tout s'explique. C'est fou tout de même le destin.
Je savourais ce plaisir fou et égoïste de monopoliser l'attention des gens avec des histoires aussi solides qu'un coup de vent. J'allais prendre congé de cette belle assemblée avant que mes folles histoires ne se télescopassent sur le mur des confrontations autour de la piscine où devaient se retrouver tous les invités, lorsqu'une jeune femme, la tête emplumée, en robe blanche et légère, se mit à danser les yeux fermés.
Oh, mais d'où vous vient ce merveilleux talent pour la danse et le mouvement ?
Figurez-vous que mon père est le fils caché de la usine des cœurs.
Nom de Zeus ! Ah, mais vous me croirez ou non, mais j'ai très bien connu Joséphine Baker. Nous étions dans le même hôtel à Paris pendant la guerre.
Ne me dites pas que Joséphine et vous avez... Enfin, on se comprend.
Mais si ! Elle est venue se réfugier dans ma chambre un soir de bombardement. Une belle nuit d'été. La terreur, la chaleur, la proximité. Nous n'avons pas pu résister.
D'où Jésus ? Mais vous êtes peut-être mon grand-père. Fêtons ça avec une ribambelle de cocktail.
Derrière elle, j'avais vu le soleil se déplacer, entamer son lent et inéluctable cheminement vers son coucher.
Vous êtes ravis de m'avoir rencontré, n'est-ce pas ?
Un instant, il l'avait même couronné. Puis, il était allé se réfugier derrière les rochers, ne nous distribuant joliment que le halo généreux de son astre caché.
Tu ferais une magnifique épouse, vous ne croyez pas ? Je suis certaine que vous vous demandez si vous avez les moyens de sortir avec moi. Je me trompe. Mais ne vous tourmentez pas, mon cher. Pour vous, je ferai baisser le ticket d'entrée. Je suis en solde jusqu'à minuit. Profitez-en.
Je voyais bien qu'elle n'avait pas toute sa tête, que ses yeux verts délirants cachaient des failles secrètes, que ses joues enfantines légèrement rebondies dissimulaient un passé d'adolescente meurtrie. Je m'étais dit bêtement que ma vie professionnelle était couronnée de succès, que j'étais presque riche, que j'étais plutôt beau mâle et que je pouvais aisément trouver une épouse normale, avoir une vie rangée. Tous les soirs prendre un apéritif avant le dîner et à minuit me coucher. Je m'étais dit que j'étais moi aussi légèrement frappé de folie et que je ne pouvais décemment pas m'amouracher d'une femme qu'il était totalement. Et puis, sur les notes d'un morceau de jazz, me passant autour du cou son étole de gaz, elle m'avait attiré vers elle, violemment, d'un coup. Nous nous étions retrouvés joue contre joue.
La nature m'appelle, je suis toute gonflée de cocktails. Attendez-moi, ne bougez pas d'une semelle.
Et pourquoi bouger ? J'ai jamais été à un meilleur endroit de toute ma vie.
Mais ça, vous connaissez Dracula ?
Pas exactement.
Non mais vous êtes autiste et vous êtes prince, vous venez de Hongrie, puis des États-Unis. Ouais. Vous êtes fou ! Pourquoi nous avoir menti ?
Ce type est malade ! Mais tout ça n'est pas incompatible !
Mais il est vraiment fou ! Il continue à se moquer de nous !
Enfin, je n'oblige personne à croire à mes histoires. Elles vous ont plu ! Vous y avez cru ? J'ai joué avec vous, vous avez perdu !
J'allais toucher le bord de la piscine lorsque je vis mon interlocutrice s'envoler brusquement, décoller du sol, prendre son envol, puis, sans planer, s'enfoncer avec fracas dans l'eau chlorée.
Je vous prie de bien vouloir ne pas m'excuser. J'en avais terriblement envie. Cet homme est
mon grand-père, l'amant de Joséphine Baker, voilà. Un cavalier prussien, et mon futur mari, il est tout ça à la fois, et moi je le crois.
Le temps d'un cocktail, d'une danse, une femme folle chapeautée d'elle m'avait rendu fou d'elle en m'invitant à partager sa démence. À l'école, lorsque je racontais ce qui se passait à la maison, la maîtresse ne me croyait pas et les autres élèves non plus. Alors je mentais à l'endroit chez moi et à l'envers à l'école. Il n'y avait pas que le mensonge que je faisais à l'envers. Mon écriture aussi était inversée. J'écrivais comme un miroir.
C'est merveilleux! Écrivez mon prénom quotidien en miroir pour voir.
Maman ne s'entendait pas du tout avec la maîtresse. Pour l'écriture, bien sûr, mais aussi parce que la maîtresse ne voulait jamais me laisser partir en Espagne, au paradis, quand mes parents le décidaient. Elle préférait qu'on attende les vacances de tout le monde pour partir.
Là-bas, les amandiers sont en fleurs. Vous ne voulez quand même pas que mon fils rate les amandiers en fleurs? Ben, c'est son équilibre esthétique que vous allez faire vaciller.
Pour me réconcilier avec la maîtresse, je ne savais vraiment pas quoi faire. Alors un jour, j'ai décidé de lui rendre service pour me faire pardonner l'écriture malade, les amandiers en fleurs et les vacances au paradis n'importe quand. Comme il se passait tout un tas de choses dans la classe quand elle avait le dos tourné et le reste face au tableau, j'avais décidé de devenir les yeux de son dos. Je dénonçais tout, tout le monde, tout le temps. Les lancers de boulettes en papier mâché, les bavardages, les tricheries, les jeux de colle, les grimaces, et bien plus que ça encore. La première fois, qu'elle et moi, vraiment personne ne s'y attendait. Alors il y a eu un gros silence gênant. La maîtresse a convoqué le lanceur de papier à la fin de la journée et a complètement oublié de me remercier. Les fois suivantes, elle avait vraiment l'air contrariée. Et puis un jour, c'est moi qu'elle a convoqué. Elle a commencé par me demander à voix haute ce que j'aurais fait en 39. Alors, je lui ai répondu que la question ne se posait pas, que je chaussais du 33 et que si j'avais fait du 39, j'aurais été probablement dans la classe du dessus, ou même dans l'école des grands. Elle ne voulait pas avoir des yeux dans le dos, c'était son choix et elle avait parfaitement le droit. Quand j'avais raconté à ma mère l'histoire des yeux dans le dos, elle avait cru que c'était ma journée imaginaire et s'était exclamée
« La délation, quelle belle passion! C'est parfaitement parfait, mon garçon. Grâce à vous, le monde tourne rond. »
Mentir à l'endroit, à l'envers. Parfois, je ne savais vraiment plus comment faire. Après l'écriture, on a dû apprendre à lire l'heure sur une horloge à aiguille. Alors là, ça a été vraiment un grand malheur.
Mon fils sait déjà lire l'heure sur la montre de son père avec des chiffres qui s'allument la nuit. Enfin, c'est bien suffisant. A-t-on déjà vu des agriculteurs apprendre à labourer avec un cheval de trait après l'invention du tracteur? Ça saurait.
C'est une famille de cinglés. J'ai jamais vu ça. À l'avenir, je laisserai votre fils comme ça au fond de la classe sans plus m'en occuper, puisque c'est ça que vous voulez.
Après m'avoir retiré de l'école, mes parents me disaient souvent qu'ils m'avaient offert une belle retraite anticipée. L'avantage, c'est qu'on pouvait partir en Espagne sans attendre tout le monde.
Henriette, refaisons les valises. Ce soir, je veux prendre l'apéritif sur le lac.
Alors on jetait des milliards de choses dans les valises. Ça volait dans tous les sens.
Pauline, où sont mes espadrilles? J'ai toujours un double sur moi.
En Espagne, chaque année, pour l'anniversaire de maman, mon père et l'ordure préparaient un feu d'artifice sur le lac. En attendant que la nuit tombe, sur la terrasse drapée de blanc, les gens buvaient en se complimentant sur leur bronzage, leur tenue, leur épouse, et se félicitaient de ce temps incroyable dont pourtant ils n'étaient pas responsables. Puis, lorsque le dernier quartier ensoleillé disparaissait derrière le sommet de la montagne, Bojangles retentissait. C'était tellement beau que tout le monde se taisait pour regarder maman pleurer en silence. D'une main, j'essuyais ses larmes, et de l'autre, je tenais les siennes. C'est souvent dans ses yeux que je voyais les premiers feux exploser après le sifflement du décollage. Au dernier coup de canon, celui qui filait le plus haut, le plus loin, le plus fort, lorsque les paillettes de feu se dispersaient en tombant lentement vers la couverture étoilée du lac, nous allions danser.
me dites pas que vous allez encore travailler. Mais vous allez vous tuer à la tâche, mon pauvre ami. Et quel jour sommes-nous?
Mercredi, Eugénie. Nous sommes mercredi et je travaille toujours le mercredi, comme tous les jours de la semaine d'ailleurs.
Ah oui, mais c'est vrai. Vous travaillez toujours le mercredi. Mais rassurez-moi, ça va pas durer toute la vie, ces âneries.
Si, je le crains. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est le pain quotidien de beaucoup d'humains.
Alors expliquez-moi pourquoi le petit voisin du dessous ne travaille jamais le mercredi, lui.
Car c'est un enfant, cher ami. Et les enfants ne travaillent pas le mercredi.
Ah oui. Mais au moins les enfants s'amusent le mercredi. Alors que moi je vous attends et je m'ennuie.
Depuis notre pétaradante rencontre, elle faisait toujours mine d'ignorer la réalité d'une façon charmante. Après l'épisode de la piscine, nous avions fui le palace, laissant derrière nous notre farce, une assemblée outrée et une pauvre mégère en train de se noyer.
Georges, roulez plus vite! Sinon mon mensonge va nous rattraper!
Je ne peux pas! Le compteur est au plus haut et l'aiguille est au plus bas! Si nous continuons comme ça, nous allons nous écraser contre votre folie!
Allons-nous marier tout de suite! Sinon après, nous allons oublier!
À l'entrée du village du Paradou, au milieu des Alpilles, devant une chapelle aux portes rouges fatiguées et aux ferronneries rouillées, nous nous sommes mariés, sans témoins, sans prêtre, en formulant 1000 prières inventées. Son comportement extravagant avait rempli toute ma vie. Il était venu se nicher dans chaque recoin. Il occupait tout le cadran de l'horloge, y dévorant chaque instant. Cette folie, je l'avais accueillie les bras ouverts, puis je les avais refermés pour la serrer fort et m'en imprégner. Pour elle, le réel n'existait pas. Alors cette villa exigeait une exclusivité pleine et entière. Alors, quand je lui avais enfin offert l'enfant que chaque matin elle commandait, je savais bien qu'un jour il faudrait me séparer de mes garages, tout liquider, pour me consacrer totalement à ma charge. J'étais conscient que sa folie pouvait un jour dérailler. Ce n'était pas certain, mais avec un enfant, mon devoir était de m'y préparer. Il ne s'agissait plus désormais de mon seul destin. Un bambin y serait mêlé, le compte à rebours était peut-être lancé. Et c'est sur ce peut-être que tous les jours nous dansions et faisions la fête.
C'est quelque temps après un de ses anniversaires que maman a commencé sa métamorphose.
Il faut payer ces impôts. J'ai un gros dossier sous le bras. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça.
Ne bougez pas, je vais chercher mon chéquier.
La pipe de papa est tombée au moment où l'inspecteur des impôts et de la fiscalité a annoncé le montant. Plus les poussières pour les retardataires. Rien que les poussières, c'était gigantesque. Alors le montant, c'était renversant. Physiquement renversant. Maman a commencé à pousser furieusement l'homme des impôts qui est tombé une première fois. Alors papa a essayé de la calmer, puis il a relevé vigoureusement les impôts par la manche en s'excusant platement, mais sans se dégonfler.
Il va falloir payer maintenant. C'est bon pour la société de payer ses impôts. Vous êtes bien content de les utiliser, les ronds-points. Vous êtes des profiteurs sans scrupules.
Espèce de gougnafier. Vous nous insultez en plus de ça? Non, monsieur. Dites-moi bien, nous n'allons jamais sur les ronds-points. Nous ne sommes pas des gens comme ça. Les trottoirs, peut-être. Les ronds-points, jamais. Et puis, si c'est si bon de payer des impôts, faites-vous plaisir! Vous n'avez qu'à payer les nôtres!
Vous allez payer cher, ça aussi, vous allez tout payer! Votre vie va devenir un enfer!
Alors ma mère, se servant de son parapluie comme d'un bouclier, a fait dévaler les escaliers aux porte-glaives de la fiscalité qui s'accrochaient à la rampe en grognant vaillamment. Il tombait, se raccrochait, dérapait, se rattrapait. Au moment où papa a réussi à la stopper en la prenant dans ses bras, elle avait fait descendre l'impôt de plusieurs paliers déjà.
Mais voyons, Hortense, vous est-il arrivé? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors maintenant, nous allons avoir de gros ennuis.
Mais les ennuis, nous les avons déjà, mon pauvre Georges. Oui, parce que vous êtes pauvre, Georges, maintenant. Nous sommes tous pauvres.
C'est un commun d'un banal, d'une tristesse. Il va falloir vendre l'appartement, alors... Vous vous demandez ce qui m'a pris? Mais voyons, Georges, ils nous ont tout pris. Ils vont tout nous prendre, tout. Nous n'avons plus un sou.
Mais non, Hortense, nous n'avons pas tout perdu. Nous allons trouver une solution. Déjà, à l'avenir, il faudra ouvrir le courrier, ça peut toujours servir.
Pas Hortense! Pas aujourd'hui, non. On m'a même volé mon vrai prénom, j'ai plus de prénom.
La vente de l'appartement couvrira bien plus que notre dette. Il nous reste le château en Espagne, ce n'est pas le bagne non plus. Et puis je pourrais me remettre à travailler.
Non, jamais. Certainement pas. Moi, vivante, jamais vous ne retravaillerez, vous m'entendez jamais. Je ne peux pas passer mes journées à vous attendre. D'ailleurs, je me demande bien comment font les autres pour vivre sans vous.
Après son choc fiscal, le problème avec le nouvel état de maman, c'est qu'il n'avait pas d'agenda, pas d'heure fixe. Il ne prenait pas rendez-vous. Il débarquait comme ça, comme un goujat. Un matin, à l'heure de mon petit déjeuner, alors que mes parents ne s'étaient pas couchés, j'ai vu ma mère sortir nue de la salle de bain, perchée sur des chaussures à talons. Seule la fumée de sa cigarette habillait inégalement son visage par instant.
Georges, je pars chercher des huîtres et du muscadet frais pour nos invités.
Mais couvrez-vous, Elsa. Vous allez prendre froid.
Mais vous avez complètement raison, Georges. Que ferais-je sans vous?
Elle s'est emparée d'une chapka sur le porte-manteau.
Je vous aime, le savez-vous?
Puis elle a disparu en précédant d'un court instant le vacarme de la porte claquée par le vent. Avec mon père, nous l'avons observée du balcon, marcher d'un pas impérial, le menton conquérant, ignorant les regards, domptant les trottoirs, jetant d'une pichenette sa cigarette, essuyant ses souliers sur le paillasson avant d'entrer chez le poissonnier.
Je sais bien que vous m'aimez, mais que vais-je faire de cet amour fou?
C'est lors d'un après-midi banal et commun que notre vie est partie en fumée. Une fumée anthracite et chimique. De la fenêtre de notre salon, au quatrième étage, s'échappait une colonne de fumée épaisse et grise, escortée de flammes virulentes, qu'essayaient de noyer deux pompiers, perchés sur leur échelle géante. Maman était allongée sur une civière, et recouverte d'une couverture de papier doré. Elle effectuait une chorégraphie confuse avec ses mains, contente d'elle. Sur ses épaules découvertes se trouvaient collées des boules de plastique brûlées.
C'est fini maintenant.
Ce que j'avais tant redouté était arrivé. Ce à quoi je n'avais jamais vraiment voulu croire nous était tombé dessus, accompagné de flammes et d'une fumée noire qu'elle avait volontairement propagée dans notre appartement pour brûler son désespoir.
Le chef des pompiers nous a expliqué qu'elle avait réuni dans le salon la montagne de courriers, toutes les photos de la maison, qu'elle avait mis le feu à tout ça et que notre salon s'était transformé immédiatement en énorme chaudron, qu'il l'avait retrouvé calme, dans un coin de l'entrée, tenant dans ses bras un tourne-disque et un grand oiseau complètement affolé, qu'elle avait été brûlée par des torches de papier cramé mais que ce n'était pas grave, que seul le salon était touché et que le reste de l'appartement était épargné. Bref, le pompier en chef nous a expliqué que tout allait presque bien, même si ça restait à prouver. Les preuves que tout allait presque bien, personne n'a pu nous les apporter. Ni d'ailleurs les policiers qui ont interrogé longuement maman en s'arrachant les cheveux devant son aplomb désarmant et ses propos surprenants.
Je n'ai fait que détruire ce que je voulais garder pour moi.
Oui?
Non, j'ai rien contre les voisins. Si j'avais voulu les brûler, c'est leur appartement que j'aurais enflammé, pas le mien. Oui, je me sens parfaitement bien, merci. Ce cirque est-il bientôt fini? Je remue ménage pour quelques papiers brûlés.
Ce compte à rebours, qu'au fil des jours heureux, j'avais oublié de surveiller, venait de se mettre à sonner comme un réveil malheureux et détraqué, comme une alarme qui fait saigner les tympans avec son incessant vacarme, un bruit barbare qui nous dit qu'il faut fuir maintenant, que la fête vient de se finir brutalement.
La clinique non plus ne nous a apporté aucune preuve que tout allait presque bien. Il n'y avait que maman pour considérer que tout allait à merveille.
Pourquoi nous rendre dans ce bâtiment déprimant cet après-midi alors que nous pourrions danser? Le salon est condamné, mais nous pourrions faire de la place dans la salle à manger. Mettons beau jungles. Le disque n'est pas abîmé. Il fait si beau, vous n'avez pas une autre promenade à me proposer? Vous n'êtes vraiment pas drôle.
Là, juste par ici.
Les médecins nous ont expliqué qu'il fallait la protéger d'elle-même pour protéger les autres. Mon père disait qu'il n'y avait que des médecins pour sortir des choses pareilles.
Ils vont garder ta mère en observation pendant quelques temps. C'est plus simple ainsi, comme ça, quand elle sortira, elle sera complètement guérie. Encore quelques jours et puis tout sera fini. Ça nous laisse le temps de réparer les dégâts du salon pour son retour. Hein. Oh, tu choisiras la couleur de la peinture. Tu vas voir, hein. On va bien s'amuser. Hein.
Ses yeux tristes et doux disaient tout le contraire. Pour être gentil avec moi, mon père était aussi capable de faire des mensonges à l'envers.
Hystérie. Bipolarité, schizophrénie. Les médecins l'avaient accablé de tous leurs savants vocables pour désigner les fous alliés. Et ils l'avaient lié à un bâtiment déprimant. Et ils l'avaient lié chimiquement avec des tonnes de médicaments. Et ils l'avaient lié pour sa démence sur une simple ordonnance tamponnée d'un caducée. Ils l'avaient lié loin de nous pour la rapprocher des fous.
Maman était installée au deuxième étage de la clinique, celui des déménagés du Ciboulot. Pour la plupart, le déménagement était en cours. Leur esprit partait petit à petit, alors ils attendaient calmement la fin du nettoyage en mangeant des médicaments. Le deuxième étage était une salle d'attente géante pour accéder au troisième étage, celui des décapités mentaux. À cet étage-là, les patients étaient beaucoup plus marrants. Pour eux, le déménagement était terminé. Les médicaments avaient tout enlevé, il ne restait que de la folie et du vent. Quand papa voulait rester seul avec maman pour danser le slow des sentiments ou faire des choses qui ne regardaient pas les enfants, j'aimais beaucoup aller me promener à l'étage du dessus. Au début, maman s'ennuyait ferme au deuxième étage. Elle disait que, quitte à être fou, il valait mieux être foutu à l'étage du dessus. Son état était variable. Elle pouvait nous accueillir avec un comportement charmant et devenir hystérique au moment de notre départ. Une fois, elle nous a accueillis la tête penchée et les bras ballants le long de son siège en bavant énormément. Papa est tombé à ses genoux en hurlant pour appeler une infirmière, mais l'instant d'après, elle s'est redressée en éclatant d'un rire enfantin. Papa est vraiment devenu tout blanc. Moi, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. J'ai eu tellement peur que je me suis mis en colère. Je lui ai dit que ça ne se faisait pas de faire des blagues comme ça aux enfants. Au fil du temps, maman devint la patronne du deuxième étage. Elle régentait tout avec bonne humeur, donnant des ordres, distribuant les honneurs, écoutant les doléances et les petits malheurs. Les hommes amoureux passaient lui apporter des dessins, des chocolats, des bouquets de fleurs du parc, parfois avec les racines. La chambre de maman s'était transformée en musée miniature et en foutoir géant. Un vendredi soir, en ouvrant la porte du réfectoire, nous avons trouvé tous les décapités mentaux qui dansaient avec leurs habits du dimanche. Certains dansaient des slows, d'autres dansaient tout seuls en criant à pleine gueule, tapant dans ses mains.
Ce soir, mes amours, je fête la fin de mon traitement! Tout ça, c'est terminé, maintenant!
Maman a été kidnappée. Pour toute la clinique, ça a vraiment été un choc. Malgré les traces de lutte dans la chambre, la fenêtre cassée à l'extérieur, le sang sur les draps, personne n'avait rien vu, rien entendu. Les décapités et les déménagés mentaux étaient complètement tourneboulés, enfin, bien plus que d'habitude. Les policiers non plus n'avaient rien compris. Ils nous avaient interrogés, mais ça n'avait strictement rien donné. Tout simplement parce que maman, c'était nous qui l'avions kidnappée. Et c'était elle qui avait tout organisé. On n'était pas fous au point de nous dénoncer quand même.
Je ne veux plus vivre ici. D'après les médecins, je ne serai jamais totalement guérie.
Et je suis tout à fait d'accord avec vous, ma chère nécessité. Nous ne pouvons pas vous laisser pervertir cette clinique plus longtemps. Il en va de la santé mentale des autres patients. Avec le rythme et la joie que vous leur donnez. Mais si ça continue, tous ces fous iront beaucoup mieux dans peu de temps. Et alors, j'aurais vraiment du souci à me faire avec tous vos prétendants. Le problème, c'est que je ne vois pas vraiment comment nous allons pouvoir convaincre les médecins de vous laisser sortir. Ni même comment ils vont accepter d'arrêter votre traitement.
Mais cher ami, Georges chéri, voyons, il n'a jamais été question de demander la permission, ni pour me sortir d'ici, ni pour arrêter le traitement. D'ailleurs, le meilleur traitement, c'est pas d'être entouré de fous, mais d'être avec vous.
Vous allez m'enlever, tout simplement.
Quoi ? Vous enlever ?
Mais oui, vous allez voir, on va s'amuser follement.
Mais vous voulez dire vous kidnapper, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, un kidnapping familial. Voilà des jours que je le prépare. Vous allez la voir, votre œuvre d'art. Un mensonge préparé aux petits oignons. J'ai réglé toute l'opération. Vous allez voir, je n'ai vraiment rien laissé au hasard.
Maman a volé une fiole de son sang lors de ses derniers examens. Et comme elle voulait vraiment que ça ressemble à un enlèvement de roman, il fallait faire croire qu'elle avait été kidnappée par la fenêtre. À minuit moins 5, elle avait prévu de renverser son sang sur les draps, de coucher délicatement la chaise au sol, de casser un vase en étouffant le bruit avec son oreiller, et d'ouvrir la fenêtre pour casser la vitre de l'extérieur avec un torchon pour masquer les sons et éveiller les soupçons d'effraction.
Voilà un plan brillamment ficelé, ma bien-aimée. Et quand envisagez-vous de vous faire kidnapper ?
Ce soir, ma chérie. Pourquoi attendre, puisque tout est prêt ? Et vous ne pensez pas que j'ai organisé cette fête par hasard ? C'était ma fête de départ.
De retour à la maison, avec papa, nous avons répété toute l'opération plusieurs fois, avec dans nos ventres de drôles de sensations. Nous avions peur, mais on ne pouvait s'empêcher de rire sans raison. Papa ressemblait à n'importe quoi avec son collant sur la tête. Son nez partait de travers et ses lèvres étaient tordues comme jamais. Et moi, j'avais le visage tout aplati comme un bébé gorille. Avant de partir, papa m'a offert une cigarette et un gin tonic en me disant que c'était comme ça que faisaient les gangsters avant un enlèvement. J'étais complètement sonné en rentrant dans la voiture. En arrivant à la clinique, nous sommes passés devant le bocal du surveillant en sautillant doucement. Puis nous avons couru dans le couloir sur la pointe des pieds jusqu'à l'angle. Sur certains murs, on voyait nos ombres déformées avancer en tremblant. C'était un peu effrayant. Cachés dans la pénombre, nous avons regardé le gardien passer juste devant nous sans nous remarquer du tout.
Mais bon Dieu, mais Georges, qu'avez-vous fait à votre collant ? Mais vous avez une tête de lépreux. Mais si quelqu'un vous voit comme ça, vous allez tout faire capoter.
Mais c'est mon nez qui m'a trahi, ma chérie. Venez plutôt embrasser votre chevalier au lieu de vous péter.
Mais votre fils est con. Complètement sous. Mais regardez-moi ça. Ce magnifique petit voyou-là qui s'enivre, hein, pour venir kidnapper sa maman. Est-ce que c'est pas charmant? Filons. La liberté est deux étages en dessous.
Nous avons dévalé les escaliers à toute vitesse. Alors mes parents m'ont pris chacun par une main et j'ai fait le reste du parcours jusqu'à la voiture en ne touchant presque plus terre.
Je vais m'installer à l'hôtel, le temps que ça se calme. Pendant ce temps-là, vous allez nous mitonner des mensonges de toute beauté pour la police, pour la clinique. Bref, pour tous ceux qui vous poseront des questions.
Pour les mensonges, vous pouvez nous faire confiance. Vous avez devant vous des hommes d'expérience, mais après l'enquête, qu'est-ce qu'on va faire ?
Après ? Bah, l'aventure continue, mon cher ami. L'enlèvement n'est pas fini. D'ici quelques jours, les recherches n'auront rien donné, enfin j'espère, et nous irons nous cacher dans notre château en Espagne. Vous allez louer une automobile, nous allons emprunter les petites routes jusqu'à la frontière, et ensuite, nous allons rouler à tombeau ouvert jusqu'à notre planque dans les montagnes pour reprendre notre vie d'avant, tout simplement.
Ah, vous avez réellement pensé à tout. Je me demande vraiment ce que vous faisiez chez les fous.
Mr. Bojangles.
Pendant les recherches de maman et de ses ravisseurs, maman a pris un faux nom pour réserver sa chambre dans un petit hôtel de passe. Papa est arrivé dans une énorme voiture ancienne qui brillait de partout, avec sur le bout du capot une statuette en argent représentant une déesse debout, les ailes dans le vent. Il en était sorti, habillé en costume gris, avec une casquette sur la tête.
Liberty Bojangles, ce n'est pas très discret comme nom d'emprunt pour une personne recherchée partout.
Mais au contraire, George, vous n'y connaissez rien. Il n'y a rien de plus discret qu'un prénom américain dans un hôtel de putain. Vous n'avez donc rien fait avant de me rencontrer.
Oh, Liberty, avec vous, chaque jour est une nouvelle rencontre.
Si Miss Bojangles veut bien se donner la peine de monter.
Mais enfin, George,
Mais vous êtes fou, c'est pas discret du tout.
Mais au contraire, Miss Liberty, vous ne connaissez rien. Les cavaliers comme les mensonges. Plus c'est gros, mieux ça passe.
Si vous voulez, George, si vous voulez. Mais j'aurais tellement aimé passer la frontière cachée dans le coffre. Ah. Bon, peu importe, allez, vous avez peut-être raison. Ça sera aussi drôle ainsi.
Nous avons pris la grande route pour descendre dans le sud. Du coup, toutes les voitures klaxonnaient en nous dépassant. Il y a même eu des flics qui nous ont fait des coucous en levant les pouces. Papa était vraiment le roi de la cavale, avais-je pensé.
Quelle carrière, mes enfants ! Quel public ! J'aurais bien fait ça toute ma vie !
Tu avais raison.
Je suis l'anonyme !
Plus c'était gros,
la plus célèbre
mieux ça passait.
Georges, Georges, accélérez, accélérez, s'il vous plaît. Les gens devant n'ont pas encore eu le temps de me saluer. Georges !
Après 7 heures de cavale tonitruante, papa avait réservé une suite dans un palace qui surplombait la mer sur la côte atlantique. Pour notre repas de retrouvailles, mes parents avaient tout commandé. La table débordait d'assiettes de homards flambés, de fruits de mer, de brochettes de Saint-Jacques enflammées, de bouteilles de blanc glacé, de rosé givré, de champagne sabré, de rouge vermeil. Les serveurs tournaient autour de nous comme des abeilles. Personne dans la salle n'avait jamais vu un repas pareil. Ils avaient même fait venir des musiciens russes à notre table. Pour des fuyards, nous avons mis un sacré bazar. En arrivant au poste frontière le lendemain, nous étions tous les deux verts et tremblants à l'arrière. Heureusement, il n'y avait eu ni flics, ni garde-barrière, ni personne pour nous contrôler. Papa a dit que c'était grâce aux accords de quelqu'un et au marché commun que nous n'avions pas été embêtés. Mais je n'avais pas compris ce qu'un marché, aussi commun soit-il, venait faire là-dedans.
Pour masquer les odeurs de gueule de bois de mon marin et de ma star de cinéma, nous étions arrêtés sur la Costa Brava pour cueillir du romarin et du thym sur le bord du chemin. En les observant, assis sous un olivier, rire et discuter en offrant leur visage blanc au soleil, je m'étais dit que jamais je ne regretterais d'avoir commis une folie pareille.
Ainsi écrivait mon père dans ses carnets secrets que j'ai découverts plus tard. Après.
À la naissance de notre fils, Constance semblait avoir évacué certains aspects de son comportement tempétueux et déluré. Je l'avais observé chuchoter des vœux à l'oreille de notre bébé fraîchement emmailloté, des vœux de bienvenue assez naturels dans une bouche maternelle. Et j'avais trouvé cette banalité réconfortante et belle. Puis, le bébé était devenu un petit garçon qui chancelle et balbutie des sons. Elle lui avait appris à vouvoyer tout le monde. Les commerçants, nos amis, les invités, notre demoiselle de midi, le soleil, les nuages, les objets et tous les éléments. Et notre fils vouait une admiration sans borne à sa mère. Et elle en était si fière qu'elle faisait parfois n'importe quoi pour l'épater.
Je ne suis pas sûre que vous allez y arriver, maman. C'est sacrément dangereux, vous savez. Il vaut mieux que vous abandonniez maintenant. Comme ça, moi, j'ai déjà gagné.
Certainement pas, vous m'entendez? Jamais je n'abandonnerai.
Et moi, dans ce cirque, j'avais accepté d'endosser le rôle de Monsieur Loyal, d'enfiler une redingote à breloque, de mettre en scène les envies, les concours, les orgies, les fantaisies, et, avec ma baguette, tenter de diriger ces folles opérettes. Alors forcément, pour l'éducation de notre charmant rejeton, dans de pareilles conditions, rien ne s'était passé comme prévu. Lorsque Marine et moi arrivions la mine grise et les yeux masqués derrière nos lunettes fumées de lendemain de fête, inventant des bobards délirants pour justifier ses absences répétées, la maîtresse nous regardait d'un air consterné.
On n'entre pas dans cette école comme dans un moulin.
C'est bien dommage, car voyez-vous, au moins, un moulin sert à quelque chose. Cette école ne lui sert à rien. En lui, il est des bibliothèques roses, il n'apprend pas grand-chose, alors qu'avec nous, la nuit, il entend de la belle prose, il disserte des nouveautés littéraires avec des libraires, il discute des choses du monde avec des diplomates, il s'entretient de politique fiscale et de finances internationales avec des banquiers de classe mondiale, il fait la cour à des roturières et des marquises parfaitement conquises, et vous venez nous parler d'horaires à respecter. Mais vous voulez quoi, hein? Qu'il devienne fonctionnaire ? Mon fils,
est un érudit oiseau de nuit qui a déjà lu 3 fois le dictionnaire et vous voulez le transformer en mouette couverte de cambouis se débattant dans une marée noire d'ennui? C'est pour éviter tout ça qu'il ne vient que l'après-midi.
Après l'incendie, je ne pouvais plus jouer la comédie. J'avais observé mon fils la recouvrir de la couverture dorée. Consciencieusement, il l'avait remontée pour cacher. Ne pas voir, ne plus voir les stigmates brûlés de l'insouciance de son enfance qui partait en fumée. Pas une fois il n'avait flanché, pas une larme n'avait coulé sur son visage fier et sage. Le seul signe qui laissait transpirer sa peine, c'était ses bras tendus pour enfoncer ses petits poings serrés au fond de ses poches. Son visage était resté sérieux et concentré lorsqu'il avait appris que sa mère allait être internée.
Quel bordel! On va bien trouver une solution, hein, papa? On ne peut pas se passer d'elle comme ça. Il faut mettre un coup de pied au cul de ce foutu tracas.
L'opération Liberty Boat Jungles était le coup de pied au cul de la raison que mon fils s'était proposé d'envoyer. Je ne pouvais pas me résigner à terminer le roman qu'était notre vie sans y ajouter un point final théâtral. Louise considérait que cet enlèvement serait le diadème qu'elle allait déposer sur sa tête pour devenir la reine des démons. Elle souhaitait épater son fils une dernière fois, tout simplement.
Devant notre terrasse, au paradis, se trouvait un immense pin. Maman n'arrêtait pas de pester contre cet arbre qui nous gâchait la vue. Elle disait que si un jour il y avait une tempête, il détruirait la maison en tombant sur nos têtes. Que l'air de rien, un beau matin, ce pin allait se transformer en assassin. Durant ces passages de folie furieuse, il n'y avait plus seulement le pain qui était une obsession. Un jour, c'était les assiettes qu'elle avait voulu changer. Parce que le soleil l'éblouissait en se reflétant dans la porcelaine, elle les avait soupçonnées de vouloir nous rendre aveugles. Un autre jour, c'était l'eau du lac qui avait été empoisonnée. Simplement parce qu'avec la pluie de la nuit, il avait changé de couleur. Pour atténuer l'ampleur et la durée des crises, un après-midi, nous avons organisé un conseil de guerre. Papa a suggéré que maman cesse de boire des cocktails toute la journée, à n'importe quel moment. Comme une prisonnière volontaire, elle nous a demandé de l'enfermer dans le grenier dès que la folie commençait à montrer le bout de son nez. Alors avec une immense tristesse, papa a accepté de boucher toutes les meurtrières. Il a balayé la poussière, enlevé les toiles d'araignée pour installer un lit dans le grenier. Il fallait vraiment être très amoureux pour accepter d'enfermer sa femme dans cette pièce infâme pour qu'elle se calme. Une fois gagnée sa bataille contre les démons, son combat contre elle-même, elle tapait à la porte et sortait victorieuse du grenier, très épuisée et un peu honteuse aussi. À la San José, les habitants du village organisaient une grande fête qui durait toute la journée. Papa disait que les Espagnols étaient des guerriers de la fête. Et moi j'aimais ce genre de combat avec des fleurs, des pétards et de la sangria. À la nuit tombée, les rues s'illuminaient de feux de camp, de torches, pour éclairer les danses et leurs boucans. L'espace d'un court instant, la nuit s'était dissipée totalement pour participer à sa manière à cette jolie guerre. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu des larmes couler sous la mantille de maman. Des larmes continues qui descendaient tout droit, dévalant sur ses joues pâles et pleines, passant sur le bord de ses lèvres pour aller se jeter par terre en prenant leur dernier élan sur son menton tremblant et fier. Comme des marionnettes, les silhouettes virevoltaient à en perdre la tête. Comme des toupies, les robes tournoyaient dans un brouillard de couleurs mêlées. Comme des figurines, les danseurs bougeaient en sautillant sur leurs ballerines. Peu avant minuit, j'ai vu maman sortir de nulle part pour rejoindre le cœur de la piste en sautillant. Une main sur la hanche et l'autre offerte en direction de mon père. Après un silence d'une éternité, l'orchestre avait démarré. Et mes parents avaient commencé à danser doucement en se tournant autour, la tête légèrement baissée et les yeux dans les yeux, comme s'ils étaient en train de se chercher, de s'apprivoiser. Ils volaient, mes parents. Ils volaient l'un autour de l'autre. Ils volaient les pieds sur terre et la tête en l'air. Ils volaient vraiment. Ils atterrissaient tout doucement, puis redécollaient comme des tourbillons impatients et recommençaient à voler avec passion dans une folie de mouvements incandescents. Jamais je ne les ai vus danser comme ça. Ça ressemblait à une première danse. Et une dernière aussi. C'était une prière de mouvement. C'était le début et la fin en même temps. Lorsque je m'étais couché en rentrant, après avoir éteint la lumière, j'avais entendu la porte s'ouvrir doucement. Et j'avais vu la silhouette de maman s'approcher silencieusement. Elle s'était allongée à mes côtés, délicatement, et avait posé ses bras autour de moi.
C'est l'histoire.
Les yeux fermés,
d'un enfant charmant,
je l'avais écouté me chuchoter une histoire très ordinaire.
Qui faisait la fierté de ses parents.
L'histoire d'un enfant charmant et intelligent qui faisait la fierté de ses parents. D'un père formidable et généreux,
avec des yeux bleus,
roulant et curieux, qui avait tout fait dans la joie et la bonne humeur pour que leur vie se passe au mieux.
Pour que leur vie se passe au mieux.
Mais malheureusement, au beau milieu de ce doux roman, une folle maladie s'était présentée pour tourmenter et détruire cette vie.
Pour tourmenter et détruire cette vie.
Des sanglots dans la voix, maman m'avait murmuré qu'elle avait trouvé une solution pour régler cette malédiction.
J'ai trouvé une solution.
J'avais senti ses doigts dessiner un signe de croix sur mon front et ses lèvres humides déposer un baiser sur mon menton. Aussitôt maman partie, je m'étais endormi confiant et serein en pensant à notre vie de demain. Le lendemain matin, en m'approchant de la rambarde de la terrasse pour voir le lac, j'ai vu maman faire la planche comme chaque jour dans sa tunique blanche. Papa s'est levé et s'est mis à dévaler le chemin du lac à la vitesse de la lumière. Et moi, je suis resté planté là, paralysé dans mon pyjama, sans vouloir comprendre le drame qui se passait en bas. Je regardais papa courir, je regardais maman flotter, je regardais papa s'approcher du corps de maman qui était en train de dériver. Après avoir sorti maman du lac, papa l'a déposée sur les galets. Il a essayé de la ranimer, il la touchait partout, il appuyait sur sa poitrine comme un fou. Je ne me souviens plus être descendu, et pourtant je me suis retrouvé à ses côtés, tenant la main glacée de maman, tandis qu'il continuait de l'embrasser et de lui parler. Si seulement j'avais ouvert les yeux dans le noir, si je lui avais répondu, si je l'avais retenue pour qu'elle dorme avec moi, si je lui avais dit que, folie ou pas, elle était très bien comme ça, elle n'aurait certainement pas fait ça. Elle n'aurait certainement pas été se baigner pour la dernière fois. Pendant toute la semaine qui a précédé l'enterrement, papa était enfermé dans son bureau pour écrire un nouveau roman, et la nuit, il venait me tenir compagnie. Il ne dormait jamais. Il n'avait pas l'air fatigué. Il n'avait pas l'air malheureux. Il avait l'air concentré et joyeux. Quand, la nuit, papa venait veiller sur moi, il marmonnait des histoires. Et le matin, alors que le soleil n'était pas totalement levé, il était toujours là, assis sur sa chaise à me regarder, sa pipe allumée éclairant faiblement son regard si particulier. Dans les cimetières des villages, les Espagnols rangent leurs morts dans des tiroirs. Comme ça, c'est plus simple pour venir les voir. Au moment de ranger maman dans son tiroir, j'ai eu le temps de voir son fantôme danser au loin, dans les bois, en tapant dans ses mains comme autrefois. Papa avait déposé une plaque de marbre blanc sur laquelle il avait fait graver « À toutes celles que vous avez été, amour et fidélité pour l'éternité ». Lorsque je m'étais réveillé le lendemain, papa n'était plus sur la chaise. Dans le cendrier, il y avait encore de la braise de son tabac parfumé, et dans l'air, la fumée de sa pipe, en nuages, en train de se dissiper. Sur la terrasse, J'avais trouvé l'ami de mes parents. L'ordure. Les yeux dans le vague. Il m'avait expliqué que papa était parti retrouver maman. Il s'était enfoncé dans les bois, juste avant que je me lève, pour ne pas que je le voie. Comment font les autres enfants pour vivre sans mes parents? Sur son bureau, papa avait laissé tous ses carnets. Dedans, il y avait toute notre vie comme dans un roman. C'était vraiment extraordinaire. En lisant son livre, j'ai eu l'impression de tout revivre une seconde fois. J'ai appelé son roman En attendant Bojangles, parce qu'on l'attendait tout le temps. Et je l'ai envoyé à un éditeur. Il m'a répondu que c'était drôle et bien écrit, que ça n'avait ni queue ni tête, et que c'était pour ça qu'il voulait l'éditer. Alors le livre de mon père, avec ses mensonges à l'endroit, à l'envers, a rempli toutes les librairies de la terre entière. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles
came. C'était En attendant Bojangles, de Olivier Bourdeau, adaptation Louise Loubrieux. There was a boy. Avec Xavier Gallet, le père, Anne-Lise Heimburger, la mère, Guillaume Marquet, le fils, et Francine Berger, Nathalie Canoui, Aurélia Ozinski, Aurélia Petit, Côme Marquet, Olivier Ruidavet, et les voix de Olivier Charlot, Antoine Moriot, Clément Jacquemin, Zelda Pérez, Lorraine Parent, Fanny Bertin, Pierre-Jean Mali, Elina Gomondi, Pascaline Beaumard. Chant, Camille Coby. Guitare, Manuel Delgado. Remerciements à Véronique et Jacques Verlet. Bruitage, Sophie Bissens, Céline Bernard. Conseillère littéraire, Caroline Wasana. Prise de son, montage, mixage, Jean-Louis Deloncle, Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Laurence Courtois. En attendant Bojangles est publié aux éditions Finitude. In return.
Je jure devant Dieu Tout-Puissant que toutes les personnes que je suis vous aimeront éternellement.
Je promets devant le Saint-Esprit d'aimer et de chérir toutes celles que vous serez, jour et nuit, de vous accompagner toute votre vie et de vous accompagner partout où vous irez.
Vous jurez devant tous les anges que vous me suivrez partout, vraiment partout.
Oui, partout, vraiment partout.